Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
L'État congolais a dépensé plus d'argent que prévu de janvier à juin 2022, soit 159%, entraînant un déficit de 59% pour la période indiquée. Ceci ressort du dernier rapport sur les états de suivi budgétaire dans sa rubrique « Fonctionnement des institutions ». Plus d'un jour à Kinshasa, sans assister aux actes barbares des motocyclistes appelés Wewa, la Commission nationale de prévention routière évoque plus de 60% d'accidents au pays impliquant les Wewa. Et pour faire face à cette situation, le gouvernement provincial a instruit ses services à procéder à l'identification de tous les conducteurs des taxis moto dans la capitale, un travail qui sera appuyé par la police. Et puis, l'invitée de ce matin, Maya Elage, chef de la sous-délégation du CICR à Kalemi, elle nous parle des rotations d'avions organisées dans le Grand Katanga pour réunifier les enfants séparés de leurs parents ou proches lors des conflits armés dans cette partie du pays. Madame, Messieurs, bonjour. Les institutions de la RDC ont consommé plus de ressources que prévu pour le premier semestre 2022. Le dernier rapport sur les états de suivi budgétaire dans sa rubrique « Fonctionnement des institutions » révèle en effet que 789,3 milliards de francs congolais, soit plus de 394,6 millions de dollars américains, ont été dépensés alors que les prévisions pour les six premiers mois de l'année étaient fixées à 496,5 milliards de francs congolais, soit 248,2 millions de dollars. Les institutions ont ainsi consommé 159%, entraînant un déficit de 59% pour la période indiquée. Pele Kipela Mondo.
Les documents renseignent que pour le seul mois de juin 2022, les trésors publics a dépensé 258,3 milliards de francs congolais pour assurer le fonctionnement des institutions. La tendance des dépenses liées au fonctionnement et à la rémunération demeure en hausse les deux dernières années malgré la volonté du gouvernement de réduire les trains de vie des institutions. À titre de comparaison, sachez par exemple qu'à la fin du mois de juin 2021, les dépenses liées au fonctionnement des institutions avaient été exécutées à hauteur de 304,8 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à plus de 294,5 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution budgétaire de 103,5%.
Entre-temps, le ministre du Commerce extérieur annonce la suppression de certains prélèvements et taxes à l'import-export sur toute l'étendue du pays. Jean-Lucien Boussa a communiqué cette décision devant la presse le lundi soir. Au cours d'une conférence conjointement animée avec le porte-parole du gouvernement, il a par la même occasion annoncé la réduction du taux de 20 autres taxes présentées par la FEC. En réaction, un opérateur économique de Goma a dit apprécier cette décision, mais il estime qu'il faut faire plus. Selon lui, dans le Nord Kivu par exemple, il y a une panoplie des taxes imposées par différents services impliqués dans les importations, lesquelles doivent également être supprimées. David Katumbi, opérateur économique de Goma, explique au micro de Denise Lukesso.
C'est déjà un début, c'est quelque chose à encourager. Donc nous disons merci, mais je crois que si les membres du gouvernement qui sont impliqués dans les opérations d'importation pouvaient réduire sensiblement les taxes qui sont par moment perçues indûment et mal comprises par les percepteurs, ça pouvait aider les derniers consommateurs puisque le prix de vente sont souvent impactés par les charges que nous subissons lorsque nous importons. Alors, ça aurait été mieux que le gouvernement se réunisse et puisse un peu réduire tant soit peu quand même la parafiscalité qui est perçue à tous les niveaux. C'est déjà un pas et nous l'encourageons. Mais nous demandons beaucoup plus qu'on réduise, puisqu'on a adhéré à beaucoup d'organisations, dont notamment l'East African Community, il y a SADC et il y a ESA, qui vont avoir des conséquences sur nous, parce que nous nous sommes beaucoup plus chers et nous percevons des taxes par moment qui ne sont pas collectées dans les circuits normaux.
David Katumbi exhorte cependant que les taxes supprimées soient vulgarisées pour une bonne information des opérateurs économiques. Ils sont enseignants et sont au nombre des 75. Ils sont partis de plusieurs villages de la province du Olomami, direction Kamina. Objectif, réclamer le paiement de leur salaire de 3 mois. Mais jusqu'à présent, ces enseignants n'ont toujours pas vu la couleur de leur argent, car la banque qui doit s'occuper de cette opération n'a encore rien fait. Peinés, ces infortunés en appellent à l'implication des autorités nationales pour décanter la situation. Jean Gandou.
Ces enseignants disent avoir quitté leur milieu depuis plusieurs semaines sans avoir terminé toutes les matières prévues dans le calendrier scolaire. Après avoir attendu en vain leur salaire des trois derniers mois, ils se sont décidés de rejoindre la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, où se trouvent les bureaux de la banque qui les paye. Jusqu'à présent, ils n'ont aucune suite favorable et continuent pour la plupart à passer la nuit à la belle étoile, s'exposant ainsi à toutes sortes d'intempéries. Parmi ces enseignants qui constituent un échantillon, on compte 25 femmes, dont 12 ayant des bébés et 3 qui attendent famille. On écoute le cri de détresse de cette enseignante venue du territoire de Kanyama.
Je suis enseignante de l'école primaire, territoire de Kanyama. Je fais 200 km à pied avec mon bébé. Je fais une semaine en route Kanyama-Kamina. Il y a 3 mois que je ne suis pas payée. Nous sommes nombreux, nous dormons dehors, nous manquons la nourriture. C'est pénible vraiment. Demandons au chef de l'État et son gouvernement de s'impliquer dans cette situation douloureuse.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la banque incriminée sont restés. Sur place à Kamina, certains députés se mobilisent pour apporter leur assistance à ces enseignants en détresse, notamment pour leur survie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, le gouvernement provincial de Kinshasa décide de mettre de l'ordre dans le secteur de transport en commun communément appelé Wewa. C'est pour lutter contre des cas d'accidents et autres bévues qu'on déplore chaque jour. Ainsi, le ministre provincial en charge de ce secteur a instruit ses services à procéder à l'identification de tous les conducteurs des taxis moto dans la capitale. Ce travail sera appuyé par la police nationale. La moto, un moyen de transport très prisé qui facilite le déplacement, a pourtant envahi le secteur de transport en commun depuis quelques années, malgré cet aspect positif, les taxis motos sont à la base de nombreux accidents. Selon la Commission nationale de prévention routière, plus de 60% d'accidents au pays impliquent des conducteurs de taxis motos à cause du manque d'expérience de certains motocyclistes, du non-respect du code de la route et du manque des voies appropriées pour la circulation de ces engins. Plus de détails dans ce reportage de Blaise Shindani Kambala.
Il ne se passe pas un jour à Kinshasa sans que la population soit témoin d'actes barbares de la part de motocyclistes appelés communément Wewa, malgré les services qu'ils rendent à la population avec ces modes de transport. Le fait que la plupart d'entre eux ne respectent pas le code de la route est à la base de beaucoup d'accidents de circulation, mettant parfois en danger leur propre vie et celle de leurs clients. Pour Kamanda, secrétaire général de l'Association nationale de motocyclistes de la RDC en amont, il y a beaucoup d'abus dans leur corporation parce que l'État congolais n'a jamais procédé à l'identification des motocyclistes.
L'État congolais avait pris cette mesure-là d'identifier chaque motocycliste et savoir qui fait le transport et qui ne le fait pas, la raison pour laquelle nous tombons dans de plusieurs délits dont nous avons des infiltrés dans notre secteur.
Du côté de l'hôtel des villes, le ministre provincial du transport a été instruit par son gouvernement pour identifier tous ces motocyclistes et la police est appelée à sanctionner sévèrement tous ceux qui chercheront à se faire justice. Charles Mboutamontou, ministre provincial de l'éducation.
Notre collègue des transports au niveau de la ville, son excellence Bokoso, est en train d'identifier, de regrouper les motards au sein des associations. Mais aussi la police est en train de donner des efforts pour renforcer les sanctions.
Pour la majorité de la population kinoise, l'État doit davantage réglementer ces secteurs.
Restons à Kinshasa pour cette fois parler de ce conflit foncier qui oppose l'Église catholique à un groupe d'individus qu'elle accuse d'avoir spolié son terrain. Le cardinal Fridolin Ambongo qualifie en effet de banditisme d'État la spoliation de la concession du grand séminaire Saint-Jean 23 à Ngaliema, archidiocèse de Kinshasa, par certains particuliers. Les spoliateurs présumés désignent l'ambassadeur congolais John Nyakeru, frère biologique de la première dame Denise Nyakeru, par qui il serait passé pour obtenir les titres des propriétaires sur un site appartenant à l'Église catholique depuis l'époque coloniale, selon le cardinal. Cette fois, le cardinal Ambongo a décidé de descendre sur terrain pour dénoncer ce fait. C'était hier. Jeff Ngoy a assisté à cette descente.
Nous apprenons qu'un certain monsieur John Kamba a la propriété de cet
terrain. Non,
là ça ne va pas comme avocat.
C'est un duel empreint d'une violence verbale entre l'avocat des présumés spoliateurs et le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné des séminaristes, des prêtres, de son évêque auxiliaire et du conservateur des titres immobiliers de la commune de Ngaliema, dépêché sur le site par le ministre des Affaires foncières. L'avocat Katako Okito dit détenir les vrais titres de la part du conservateur. conservateurs. Celui-ci les qualifie d'illégaux.
L'Église a des titres connus et nos clients ont des titres connus.
Lorsque le titre est établi sur des bases irrégulières, ce titre est remis en cause.
Quand les titres sont remis en cause, excusez-moi de vous interrompre, la procédure est connue, c'est la justice. C'est vous qui nous établissez les titres.
Carlos Ndaka, évêque auxiliaire, dénonce la famille biologique du président de la République, dont John Nyakero.
Ces terrains appartiennent à l'archidiocèse de Kinshasa avant que tous qui sont ici puissions naître. On entend citer les noms de John Nyakero, de certains magistrats de la Gombe, Gabriel Bondo de la NER. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice.
C'est sous ces entrefaites que le cardinal ordonne la construction des murs de clôture et le déploiement de quelques éléments de la police pour sécuriser la superficie de près de 4 hectares querellés.
La République démocratique du Congo est engagée dans le processus d'élaboration d'une politique nationale de justice transitionnelle. C'est autour de cet objectif que s'est justifié un atelier qu'organise à Kinshasa du 19 au 21 juillet le ministère des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, élu récemment au Comité des droits de l'homme de l'ONU et président de la commission d'enquête de cette organisation sur le Kasaï en RDC. Bakr Ndiaye participe à ces travaux. Il explique ici l'objectif de la justice transitionnelle en RDC dans ses propos recueillis par Honoré Missenga.
L'objectif fondamental de la justice de transition est premièrement de faire la lumière sur les cycles successifs d'événements violents ayant entraîné des violations graves et souvent massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire par l'identification des causes profondes des conflits et violations qui ont traumatisé la nation congolaise et choqué l'humanité. Et aussi par la dissipation des mythes et mensonges diviseurs et destructeurs. Deuxièmement, de lutter contre l'impunité, y compris par une stratégie de poursuite ciblée, adaptée aux réalités locales et obéissant aux normes internationales. Troisièmement, de matérialiser la solidarité avec les victimes, de rétablir la confiance entre l'État et les communautés et entre les communautés afin de promouvoir une réconciliation durable.
Retour au Nord Kivu. Dans le territoire de Beni, plusieurs personnes sont aux arrêts dans le secteur de Rwenzori. Elles ont été interpellées par les services de sécurité pour raison d'enquête. Selon ces services, ces personnes seraient impliquées de près comme de loin dans le chaos sécuritaire qui secoue ce secteur. Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région, seule la justice décidera de leur sort. Marc Marofimbo.
Parmi les personnes arrêtées figurent certains acteurs de la société civile, notamment le président de la société civile du secteur de Rwenzori. S'y ajoutent également les directeurs d'une radio communautaire émettant des Lume ainsi que certaines personnalités de la région. Ces derniers sont arrêtés par les services de sécurité car suspectés dans l'une ou l'autre situation sécuritaire dégradante dans ces secteurs. Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 de la région, seule la justice décidera de leur sort. Le capitaine Anthony Malouchaï.
Nous avons interpellé beaucoup de gens pour savoir plus. Mais ce n'est pas pour dire que tous ceux qu'on a interpellés sont des coupables. C'est comme ça, la sécurité, ça marche comme ça. Et c'est juste question de vérifier les allégations portées contre eux. Et si c'est fondé, ils vont faire face devant la justice. Si ce n'est pas le cas, et bien sûr qu'ils seront relâchés.
C'est depuis le début de ce mois de juillet que plusieurs incidents sécuritaires ont été rapportés dans le secteur de Rwenzori, notamment à Boulongo et à Lume. Les services de sécurité se sont mis en œuvre pour dénicher certains collaborateurs et acteurs de ces incidents dont plusieurs sont déjà aux arrêts. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et dans le territoire de Niragongo, toujours au nord Kivu, deux jeunes garçons de 15 et 16 ans auraient été arrêtés depuis dimanche dernier dans la matinée par des militaires de l'armée rwandaise. C'est dans la zone frontière entre la RDC et le Rwanda. La société civile de Niragongo qui livre l'information indique que ces enfants ont été appréhendés alors qu'ils faisaient paître leurs chèvres entre la borne 18 et 19 dans le pâturage de Kibaya, habitants du village Kisheke, groupement Kibati. Ces enfants sont élèves en 8e année. Un activiste local des droits de l'enfant, membre de Action solidaire pour la conservation et le développement intégral à Kodi, demande l'implication complète des services de sécurité, notamment la DGM, ainsi que le mécanisme conjoint de vérification pour que ces enfants soient libérés et regagnent leur famille. Antoine Ndagije est au micro de Sifa Maguru.
Nous avons aussi par le canard d'autres enfants. Ils étaient un bon nombre d'enfants qui faisaient paître leur chèvre dans le Kibaya. C'est juste dans le village de Kanyanja, entre les bornes 19 et 18. Que ces enfants se sont retrouvés dans le main des ARTS et d'autres ont pris fuite pour maintenant regagner leur village. Puis ce dimanche-là, on a eu des nouvelles comme quoi ces enfants seraient amenés à Kisenyi dans un maison de détention au Cachon, où ils sont gardés, je ne sais pas, par la police. Ce qui nous préoccupe est qu'il y ait implication de nos autorités, notamment la DGM, mais aussi les mécanismes conjoints de vérification, la CRG, pour amener ces enfants dans leur pays d'origine. Et comme nous le disons, ce sont des enfants de moins de 18 ans, ils sont entre 15 et 16 ans, des élèves bien identifiés.
Contacté, l'administrateur de Niragongo promet de vérifier cette information.
Actualité internationale.
Nombre de forêts continuent de brûler en France, ailleurs en Europe, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Albanie ou encore au Royaume-Uni. Les pompiers sont sur le qui-vive pour circonscrire les feux qui menacent de destruction les habitations et contraignent les autorités à procéder à des évacuations. Le Maghreb est lui aussi confronté à un épisode d'extrême chaleur. Le Maroc, où des feux se sont déjà déclarés, s'apprête à vivre une période météorologique à haut risque.
L'invité.
83 enfants dont l'âge varie entre 5 et 19 ans viennent de retrouver leurs proches dont ils s'étaient séparés depuis des années. Pour faciliter ces retrouvailles, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a organisé 11 rotations par avion dans les villes et cités des provinces du Tanganyika et Katanga. Pour en parler, nous recevons la chef de la sous-délégation du CICR à Kalemi, Maya Elage, s'entretient avec Patience Ngalula.
Maya Elage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge basé à Kalemi. Il y a une semaine, vous avez réunifié 83 enfants avec leurs familles dans les provinces du Tanganyika et au Katanga. Quelles sont vos impressions?
Quand on arrive à regrouper les familles avec les enfants, c'est toujours des moments de joie immense, d'émotions très très intenses. Je pense beaucoup plus en fait aux familles et aux enfants, parce que c'est eux qui ont vécu quand même des expériences assez traumatisantes. Ce sont eux qui ont vécu ce que je peux imaginer comme le pire cauchemar pour un parent ou pour un enfant, d'être séparé de la personne la plus proche. Pour moi, ça me fait vraiment une grande joie. Et c'est un privilège vraiment de pouvoir y contribuer en fait à ce bonheur que vont ressentir les familles.
Avez-vous une idée du contexte dans lequel ces enfants étaient séparés de leur famille?
En fait, ces enfants ont été séparés à différents moments, à différentes années, évidemment, dans la province de Tanganyika et aussi dans le Haut-Katanga. La séparation, elle est due évidemment aux violences et aux conflits armés, parce que là, les familles qui fuient, par exemple, les violences, peuvent perdre le contact avec l'enfant. D'après, c'était devenu très difficile, d'un côté comme de l'autre, de se retrouver.
Comment le CICR parvient-il à rétablir les contacts entre les familles et les enfants disparus avant la réunification?
C'est un travail de longue haleine que le CICR fait ici au Congo avec la Société nationale, la Croix-Rouge du Congo. C'est un travail qui nécessite beaucoup de recherches, surtout quand on travaille dans des zones qui peuvent être difficilement accessibles pour des raisons logistiques ou sécuritaires. En général, que ce soit les parents ou les enfants, approchent le CICR ou la Société nationale, évidemment, parce que nous essayons de faire promouvoir, évidemment, ce service à toute la population. Et à partir du moment où ils nous approchent, ça commence ce travail-là, qui est mené d'une manière intense. C'est un travail qui prend deux fois des années. Ce qu'on voit aujourd'hui, les réunifications, c'est vraiment les résultats d'un travail de recherche, de triangulation des informations, pour pouvoir finalement identifier les enfants et procéder avec les différentes étapes afin qu'ils puissent être réunis avec leur famille.
Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez pu rencontrer durant ces processus?
Il y a déjà les difficultés qu'on a rencontrées pendant, je dirais, l'étape avant la réunification, parce que déjà, on parle quand même des enfants, donc deux fois des enfants qui sont vraiment en bas âge, qui sont incapables forcément de fournir les bonnes informations, d'avoir des adresses claires, d'avoir une précision sur la localité, le village de leur famille. Il y a aussi des enfants qui, pendant la période de séparation avec les parents, ils ont été accueillis par des familles d'accueil. Et évidemment, ils ont développé un attachement à cette famille. On peut avoir, par exemple, la famille qui s'oppose éventuellement à la réunification. Il y a aussi le problème d'accès aux zones de recherche. On parle vraiment des zones qui ne sont pas forcément couvertes, même par le réseau téléphonique. On parle des zones qui peuvent être difficilement aussi accessibles en raison de l'état de route, des infrastructures, où ça peut ralentir le processus. Après, pour la réunification, ça nécessite une grande organisation logistique, parce qu'il s'agit quand même de 11 rotations de l'avion CICR pour pouvoir justement faire en sorte que les enfants puissent rejoindre quand même leur famille le plus vite possible. Mais que je peux dire que une fois on voit les enfants et les familles ensemble, elles sont vite oubliées et elles s'envolent.
Après les réunifications familiales, comment le CICR accompagne-t-il les familles concernées?
Le CICR continue toujours à faire un suivi après les réunifications pour voir comment ça se passe pour les enfants. Ça peut être un suivi pour voir déjà si les enfants sont toujours là, si les enfants se portent bien, s'il y a certains besoins éventuellement pour le bien-être de l'enfant auxquels le CICR peut répondre. Dans certains cas, on peut éventuellement référer par exemple des enfants à d'autres organisations au cas où nous, on peut pas répondre à ces besoins-là parce que ça dépend de chaque cas.
Maya Elage, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge basé à Kalemi, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.